Et nous continuons nos méditations sur le thème de l'espérance, thème que nous avions commencé en ce début d'année. Nous avions vu donc il y a 15 jours, parce qu'on a fait une petite parenthèse la semaine passée, pour notre assemblée générale, nous avons vu comment Jésus a répondu aux disciples quand ils lui ont demandé comment se produirait donc la destruction du temple et le retour de Jésus et la fin du monde. Ça, c'était dans les chapitres qu'on trouve en Marc 13 et aussi en Matthieu 24. Alors Jésus leur a dit que beaucoup d'événements dramatiques continueraient à se produire, comme des guerres, comme toutes sortes de tremblements de terre, mais que ce ne serait pas la fin. La fin viendrait à un moment inattendu que seul le Père dans les cieux connaissait. Et de ce fait, tout le monde donc devait se tenir prêt. Prêt à tout moment, à tout moment. Alors pour illustrer ceci, dans l'évangile de Matthieu, ce grand discours sur la fin des temps est suivi donc de trois paraboles. Et c'est ces trois paraboles que nous voulons voir aujourd'hui. Alors ces trois paraboles donc ne sont pas là pour établir le calendrier des événements futurs, mais elles sont là pour insister sur le comportement que nous devons avoir dans la perspective du retour du Christ. Alors il y a peut-être une sorte de crescendo, comme on dit, comme on dit en musique, dans ces trois paraboles. Et il est intéressant de les voir ensemble pour voir leur complémentarité. Alors on va les lire petit à petit. Alors tout d'abord, il y a la parabole, on va l'appeler, du serviteur digne de confiance. C'est en Matthieu chapitre 24, versets 45 à 51. Alors c'est la première histoire. On va dire qu'elle ne ressemble pas, pour l'introduire, on peut dire qu'elle ne ressemble pas à une parabole, parce qu'elle commence avec une question. Mais nous avons bien là une histoire que Jésus a imaginée pour enseigner, et pour enseigner quelque chose et pour nous parler. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le serviteur, le maître de ce serviteur viendra le jour où on ne s'y attend pas, où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en piège, il coupera en deux. Il lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Éclaire encore pour nous ta sainte parole, Seigneur. Amen. Alors, deux serviteurs, si on pourrait traduire littéralement deux esclaves. Vous avez ça dans les notes en bas de vos Bibles en principe. Alors il ne faut pas imaginer les esclaves autant des plantations, dans les plantations de sucre de coton dans les Amériques. C'était ici des gens à qui on avait confié des responsabilités. Donc dans le monde antique, il faut faire un petit effort, se replacer dans le monde antique, dans le contexte du monde antique. Dans le monde antique, quand vous vouliez un professeur pour vos enfants, quand vous vouliez un comptable, quand vous vouliez un architecte, très souvent vous achetiez un esclave, quelqu'un de compétent que l'armée romaine avait ramené dans le sillage de ses conquêtes. Et déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons que Joseph a été vendu en esclavage, il gérait tous les biens du riche égyptien qui était Potiphar. Donc un peu le contexte. Donc voilà deux esclaves en position de responsabilité, comme on dirait aujourd'hui, deux gestionnaires. Le maître les nomme responsables de ses domestiques. et il leur confie le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel. Alors, l'un s'en acquitte bien, l'autre pas. Et la différence entre les deux, c'est surtout que le second estime que tout lui est permis parce que le maître n'est pas là, parce que le maître tarde à venir, peut-être qu'il ne reviendra pas. Voilà, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, dit la fable. Et donc, il commence à agir en tyran. Il révèle sa véritable nature. Il commence à agir en tyran, il devient violent, il devient fêtard, ivrogne. C'est de l'abus de pouvoir, comme on dit aujourd'hui. Alors, au retour du maître, le premier reçoit une promotion. Il devient le gestionnaire de tous les biens de son maître. Et le second, ben, qu'est-ce qui lui arrive ? Alors, ça dépend des versions. Il est mis en pièces, dit la version que j'ai lue, la version Colombe, coupé en deux, littéralement. Il est puni très sévèrement, dit la Bible du Semeur. Et puis, il est chassé, dit la Taube. Alors, il y a un petit problème de traduction, mais finalement, ça ne joue pas sur grand-chose. La suite est très claire. Il partage le sort des hypocrites. Alors, et il est jeté dans un lieu de pleurs et de grincements de dents. Alors, les pleurs et les grincements de dents, Jésus en a parlé à plusieurs reprises. Il y a ici deux petits indicateurs qui nous disent pour qui Jésus a raconté cette histoire. Alors, d'après le poste qui lui est confié, qui est confié à ces deux hommes, c'est pour donner à manger, on l'a vu, aux gens de sa maison, non pas comme un cuistot, mais comme un responsable de personnel. Et puis, il y a le mot hypocrite, donc. C'est un mot religieux qu'on rencontre souvent dans les évangiles en rapport avec les pharisiens. Jésus a traité, Matthieu 23, les pharisiens, juste avant, d'hypocrites. Ils se réclament de la religion, mais ils ne se soucient pas de Dieu. C'est comme s'ils portaient un masque, comme les comédiens de l'époque. Et donc, ce qu'ils disent ne correspond pas à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils montrent, à leurs actions. Donc, si on met ces deux indices ensemble, on arrive à la conclusion que les premiers visés sont les responsables religieux de l'époque de Jésus. Ils doivent faire paître le troupeau de Dieu en toute loyauté. Et on sait qu'au cours de l'histoire, il y a bien eu des périodes où des grands responsables religieux, se disant chrétiens, dans l'histoire de l'Église qui a suivi, ont négligé de donner à manger au peuple de Dieu, et le peuple de Dieu était affamé. Ils ont exercé des violences extrêmes contre les fidèles, pour leur pouvoir. Ils ont vécu dans le luxe et les excès. Et puis, il ne faut pas aller seulement dans le passé. Si on regarde autour de nous aujourd'hui, de nos jours, à une plus petite échelle, bien sûr, des faits de cette nature sont parfois racontés dans la presse, et pas seulement dans la presse d'outre-Atlantique. Mais les premiers visés, donc, ce sont les 12. Ce ne sont pas les pharisiens de toutes les époques. Ce sont les 12. Quel que soit le délai d'attente avant le retour du Christ, et ça peut prendre du temps, dit la parabole, ils auront exercé leur ministère de façon sobre et fidèle, sans penser à leur confort avant tout. Donc ça, c'est la première parabole. Puis la deuxième parabole est sans doute la mieux connue. On l'appelle donc la parabole des 10 vierges, je préfère dire la parabole des 10 jeunes filles. Vous avez sans doute entendu souvent à l'école du dimanche, peut-être vous l'avez même enseigné à l'école du dimanche, raconté à d'autres, et vous avez entendu plusieurs prédications là-dessus. Mais est-ce qu'on a toujours bien compris cette parabole ? Alors on va lire l'histoire. Donc c'est Matthieu 25, 1 à 13. Le royaume des cieux sera semblable à 10 jeunes filles, donc, qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases, dans des flacons. Quand l'époux, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'épouse, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Mais donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent, « Mais non, il n'y en aurait pas assez pour nous tous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, donc celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles entrèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voilà la conclusion de la parabole. Alors, il s'agit sans doute d'une fête de mariage dans un village. Des jeunes filles doivent attendre le marié pour l'escorter ensuite jusqu'à la maison des parents de la mariée. C'est ainsi, c'était la coutume. Pour qu'ensuite il y ait une fête qui aura lieu donc chez eux. Alors ça va être une procession nocturne. Les jeunes filles vont avoir donc des torches. Il faut mieux traduire par le mot torche, parce que c'était certainement des torches. C'est-à-dire c'était des bâtons dont le bout était enveloppé de tissu et imprégné d'huile. Et il s'agirait donc d'un accueil au flambeau, un accueil triomphal, avec acclamation. Et si vous mettez le feu à une torche de ce genre, sans qu'il y ait d'huile, le tissu va flamber de façon nauséabonde, puis il va s'éteindre assez vite. Donc, c'est ce qui se passe pour 5 des jeunes filles dans notre histoire. Le marié tarde à venir. Alors ça, on va dire, c'est pas normal. Il doit être pressé de se marier. Non, mais nous sommes en Orient. En Orient, on a le temps. On n'a pas la même notion de temps, du temps qu'ici. Et en tout cas, ça demeure peut-être jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, les filles s'endorment toutes. Donc, c'est qu'il n'y a pas de mal à ça. Les sages comme les folles s'endorment. Mais quand le marié finit par montrer le bout du nez, c'est le drame. La moitié des filles n'a pas d'huile. Alors ce n'est pas qu'elles n'en ont pas assez. Le texte dit littéralement qu'elles n'avaient pas d'huile. Les 5 filles sages en ont pris dans des flacons. Et elles ne peuvent pas le redonner, sinon toutes les torches vont s'éteindre et il n'y aurait plus de procession nocturne, plus de mariage digne de ce nom. Et le temps que les cinq filles imprudentes aillent chercher de l'huile, la fête commence, la porte est fermée, on ne laisse plus entrer personne. Donc, bien sûr, on essaye de comprendre le sens de cette parabole. Et elle est en ce sens et est en toute lettre dans ce verset 13. « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc voilà l'essentiel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut, quand il est dit « tenez-vous en éveil » ou « soyez veillés donc », ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être sur la brèche et ne jamais fermer la paupière. Les filles avaient le droit de dormir. Mais ça veut dire qu'il faut être prêt à tout moment. Et voici donc le message qui nous est transmis ici. Et pourtant, il y a bien des éléments dans cette histoire dont on aimerait savoir s'ils ont une signification supplémentaire. La plupart des paraboles racontent en effet une histoire pour enfoncer un clou, un seul clou. Il faut aller à l'essentiel, il ne faut pas chercher dans les détails. Bien. Mais il y a quand même quelques paraboles que Jésus a racontées, comme la parabole du semeur, où les détails comptent. Alors, qu'en est-il de la parabole des 10 jeunes filles? Alors, il y a 2 détails qu'il faut essayer de voir un peu. Le premier détail incontournable, c'est l'identité du marié. Nous sommes en train de parler du retour du Christ. Donc, Jésus prévient les disciples que son retour n'est peut-être pas de sitôt, pour sitôt. Et voilà qu'il raconte une histoire sur un marié qui tarde à venir. Donc là, on voit que ça a de l'importance. Ça peut prendre du temps. Et le marié, c'est lui, bien sûr. d'autant plus que dans l'Ancien Testament, l'Éternel, le Seigneur, est parfois appelé l'époux de son peuple, l'époux d'Israël. Jésus est dans le rôle de l'époux, et ce titre lui sera donné plus tard dans les écrits des apôtres, jusque dans l'Apocalypse. Alors, il y a un deuxième élément, c'est l'énorme différence entre ce qui arrive aux jeunes filles prévoyantes et aux cinq insensées, on va dire. Les premières entrent dans la joie de la noce, bien. Les autres en sont exclues. Elles restent dehors, elles s'entendent même dire « je ne vous ai jamais connu ». Des paroles semblables et terrifiante, il faut bien le dire, se trouve à la fin de Matthieu 7, par exemple, quand il s'agit du rejet des faux prophètes et des faux faiseurs de miracles. Tous ces gens sont mis dans la même catégorie. Alors, un autre élément, c'est l'huile. Alors, l'huile, on se dit, mais qu'est-ce que... Alors, on a tous entendu des prédicateurs parler de l'huile, et tout dire sur l'huile, et donc aller un peu trop loin, à mon avis. Parfois, dans la Bible, l'huile est le symbole du Saint-Esprit, c'est vrai. Plus souvent, l'Esprit est symbolisé par l'eau. Est-ce qu'il y a une référence à l'Esprit ici, en parlant d'huile? Certains le pensent. Certains vont jusqu'à dire que c'est un avertissement à l'adresse des chrétiens qui n'auraient pas l'Esprit. Mais cela ne colle pas avec le reste de l'enseignement de la Bible. Des chrétiens sans l'Esprit ne sont tout simplement pas des chrétiens. Et dit Romains chapitre 8, par exemple. Si j'ai l'Esprit aussi et que je le partage avec quelqu'un, est-ce que je serai démuni pour autant? Est-ce que j'en aurais plus assez pour moi? Non, c'est pas ça. Donc ça ne convient pas. Ça ne convient pas. Est-ce que je peux conseiller à quelqu'un d'acheter l'Esprit? Et si on suit cette parabole? Ben non, non plus. Est-ce que la pointe de la parabole concerne l'esprit? Non plus. Donc ce n'est pas une parabole sur les chrétiens spirituels ou pas spirituels, c'est une parabole sur le retour du Christ, n'oublions pas. Sur la nécessité de rester vigilant. Donc l'huile fait partie de l'histoire, c'est tout, elle n'a pas de sens symbolique. Alors avoir de l'huile, c'est tout simplement être prêt à accueillir le marié quand il vient. Ne pas avoir d'huile, c'est ne pas être prêt pour ça. Mais alors, c'est quoi être prêt? Voilà. Alors, la troisième parabole va nous le dire, en tout cas, en partie. Cette troisième parabole, on peut l'appeler aujourd'hui, la parabole des lingots d'or. Et elle se trouve en Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Alors, c'est la dernière parabole qui est souvent appelée la parabole des talents. Mais il ne faut plus l'appeler comme ça, je crois. Car le talent, dans le monde grec d'autrefois, c'était un poids. Un poids assez lourd. Un lingot, quoi. Un lingot d'or. Par la suite, le sens de la parabole a fait qu'on a commencé à parler des talents comme les capacités que Dieu donne à chacun. Et on a oublié que c'était d'abord une histoire d'investissement, ici. Alors, lisons un petit peu. Matthieu 25, peut-être le mot talent va revenir parce qu'on a tellement l'habitude. Aujourd'hui, et donc, il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 lingots d'or, donc à l'un d'eux, à l'autre 2 et à un troisième un seul. À chacun selon sa capacité, est-il dit. Et il partit en voyage. On voyage beaucoup dans ces paraboles. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait eu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait qu'un seul, eh bien, lui le cacha, dans la terre, dans un trou. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte à tous. Celui qui avait reçu les 5 s'approcha et apportant 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'avais confié 5, voilà 5 autres que j'ai gagnés. » Son serviteur lui dit, « Bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'avais confié deux, et voilà deux autres que j'ai gagnés. Ton maître lui dit, mais c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha, qu'un lingot d'or, donc vous voyez, ça revient, s'approcha et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne, où tu n'as pas semé, qui récolte, tu n'as pas répandu de semences. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton lingot d'or dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, tu es un serviteur mauvais, paresseux aussi. Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, enfin tu le dis, que je récolte ou je n'ai pas répondu. S'il te fallait donc, si tu es logique avec toi-même, placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt au moins. Ôtez-lui donc le lingot d'or et donnez-le à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance celui-là, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, ben jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. L'expression revient. Donc ce sont là à nouveau des serviteurs, mais dans le sens des esclaves en position de responsabilité. Et donc ces esclaves en position de responsabilité reçoivent chacun une certaine somme. Donc 5 lingots, 2 lingots ou un seul lingot. C'est beaucoup d'argent, faut bien se le dire. Un lingot, c'est déjà beaucoup d'argent aussi. Donc chacun reçoit quand même quelque chose d'absolument estimable. Et c'est une grâce, c'est une faveur, c'est un acte de confiance du maître. Et chacun reçoit selon ses capacités, avec un cahier des charges aussi simple et clair. Ils doivent bien gérer cet argent, le faire fructifier. Or, le premier était sûrement doué pour le commerce, il a doublé sa mise. Comme le deuxième d'ailleurs. Mais le troisième n'a fait que cacher son lingot dans la terre. Alors longtemps après le maître revient. Retenez bien ce mot. Encore une fois, c'est après un laps de temps qui est plutôt long. Et les trois serviteurs rendent compte de leur gestion et chacun est récompensé en fonction de son travail de gestionnaire. C'est là que le troisième serviteur donc est pris en défaut. Il n'a pas géré l'argent, comme cela lui avait été demandé dans son cahier des charges qu'il avait accepté. Et c'est de la désobéissance. Il n'a même pas cherché à placer cet argent chez les banquiers. Peut-être donc, pour le contexte de l'époque, c'était au temple. Et il dit avoir eu peur, il est paralysé par la fausse idée qu'il se faisait du maître. Fausse idée. Mais au lieu d'assurer dans ce cas-là, il n'a rien fait. Il n'a même pas été logique avec sa peur. Bon, alors le maître le traite de paresseux. Il le jette dehors dans les ténèbres, au milieu des pleurs et des grincements dedans. Jusqu'ici, tout est clair. C'est à nous maintenant, par contre, de tirer de cette histoire une leçon, des leçons pour nous. Parce que Jésus, lui, ne le fait pas pour nous. On l'a vu, parfois il le fait, parfois il ne le fait pas. Et donc, ça veut dire, je crois, que nous avons tous reçu un certain capital de la part de Dieu. Alors, nous avons reçu la vie, d'ailleurs, d'abord. Nous avons reçu la santé. Nous avons reçu une intelligence, une certaine intelligence, une intelligence certaine, peu importe. Nous avons eu une capacité manuelle, relative, bien sûr. Nous avons reçu, par exemple, des dons artistiques. C'est merveilleux, dans différents domaines. Nous pouvons avoir un don pour les maths aussi. Si, ça existe. Ou nous avons un don pour les langues. C'est extraordinaire, les gens qui apprennent les langues facilement, comme ceux qui apprennent la musique aussi facilement. Mais nous n'avons pas eu un capital unique et identique chacun. Et on s'en rend bien compte. Mais nous avons eu un lot, donc reçu un lot qui varie beaucoup d'une personne à l'autre. 5, 2, 1. Mais là n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que nous allons en faire ? Qu'est-ce que nous en avons fait ? Ce capital, est-ce que nous le faisons fructifier ? C'est là la pointe de la parabole. Et donc, est-ce que ce capital porte vraiment des fruits ? Et donc, un capital porte vraiment des fruits quand d'autres en bénéficient. C'est ça, je crois, l'idée. Les dons que Dieu nous donne sont pour le bien des autres. Ils ne sont pas pour notre enrichissement personnel, pour notre réjouissance personnelle, mais pour nous glorifier. Et ils sont là pour l'enrichissement des autres. Nous sommes là pour servir. Il n'y a pas de plus grand mot, de plus beau mot dans la vie chrétienne. Donc, les deux mains que j'ai là, eh bien, peuvent servir. Mais peuvent aussi servir à tourner les pouces. Ce ne serait vraiment pas intelligent de s'en servir seulement pour se tourner les pouces, alors que ses mains peuvent servir à faire la vaisselle, par exemple. Activité utile. L'esprit imaginatif que j'ai là, je parle pour chacun de nous, peut nous faire passer des heures agréables en rêverie ou inventer des histoires pleines de cancans sur notre prochain. Mais ce ne serait pas la meilleure façon d'utiliser l'esprit créatif que Dieu nous a donné. Il serait mieux employer cet esprit imaginatif dans des projets créatifs. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et cette foi que j'ai dans mon cœur et que nous avons dans notre cœur, elle est pour les autres, pour édifier les autres, pour annoncer le Christ au monde, comme on l'a dit dans la première partie. Jésus n'a pas encore instauré son règne dans toute sa puissance, mais nous n'attendons pas son retour en croisant les bras. Nous devons dès maintenant bien gérer ce que le Seigneur nous a confié, et il a confié à chacun quelque chose. Et ici, Jésus donc annonce un principe qui est important pour la vie des églises. Au verset 21 et 23, il dit « Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. » C'est ça le sens. Alors s'il peut s'agir, par exemple aujourd'hui, de confier des responsabilités aux membres d'une église, comme ça se fait dans une assemblée générale, ou à la rentrée scolaire, ou à d'autres moments. On ne va pas forcément chercher, dans ce cas-là, les gens les plus doués, non. On ne va pas chercher les gens les plus intelligents, non plus, ni les plus instruits. On va chercher les gens qui ont prouvé, dans de petites choses, qu'ils sont fidèles. Voilà. Et on leur confie de plus importantes. Le mot « grande », c'est un mot à double usage, de plus importantes. Et on va essayer d'aider les autres à devenir fidèles, ceux qui ne le seront pas encore. Voilà tout le projet que nous avons les uns pour les autres. Alors, pour conclure, on peut dire que nous avons donc trois histoires, qui ont trois points en commun. Alors, quels sont ces trois points ? Et ils ont une différence. Les trois points, donc on les a repérés. Le premier point, c'est à chacun, Dieu confie une responsabilité. Petite ou grande. Ça peut être gérer le personnel, éclairer la procession nuptiale, faire fructifier un capital. Trois directions pour que chacun se sente concerné. Deuxièmement, le retour de Jésus, du Christ, n'est pas pour tout de suite. Il n'est pas pour le temps des apôtres, dit-il. Il peut encore tarder. Ce sera la surprise, de toute façon. Et troisièmement, au moment de son retour, il y aura une terrible séparation. Les mots sont clairs. Entre ceux qui vont être rejetés dans les ténèbres du dehors et ceux qui entreront dans la joie de leur maître. Alors la différence entre les paraboles, c'est entre ceux donc plutôt qui vont être rejetés et ceux qui entreront dans la joie. La différence, c'est le respect qu'ils ont pour le Seigneur et la mise en pratique de ses consignes. Ou si vous voulez, un langage plus à notre portée et plus habituel de la vie de tous les jours, la foi se manifestant dans des actes. Voilà la différence entre les uns et les autres. La foi se manifestant pas dans les actes, ou de l'autre côté, la foi se manifestant dans les actes. Et donc, on peut conclure vraiment hein, en disant, est-ce que notre foi se manifeste par les actes hein. Et on sait que de par le monde, il y a beaucoup de gens, il y a encore des gens dans les églises. Hein. Mais on sait que les gens qui sont dans les églises n'ont pas forcément la vie de Dieu en eux. Hein. Il y a des chrétiens de nom. Hein. Tous ne sont pas forcément nés de nouveau. Tous n'ont pas rencontré le Seigneur, une communion vivante avec lui. Tous ne sont pas réconciliés avec lui. Hein. Tous ne vont pas forcément produire un fruit qui dure. Et on sait bien aussi que le cœur humain est tortueux, dit la Bible, hein, Jérémie 17. Nous nous faisons parfois des illusions sur nous-mêmes. Hein. Et ça veut dire que même après une conversion, une conversion aussi radicale que l'apôtre Paul, eh bien même après ce genre de conversion, nous devons toujours faire attention. Hein. Nous pouvons avoir une conversion vraiment extraordinaire, mais nous devons ensuite faire attention tout au long de notre vie chrétienne. Nous laisser aller, c'est un risque hein, qui est devant nous. Nous endormir, faire comme si on pouvait vivre sans Dieu, tout cela, ce sont les risques de notre vie chrétienne. Mais ce serait alors nous aligner sur ceux qui ne l'ont pas connu. Non, ça, nous ne le voulons pas. Donc, et ces trois paraboles donc, sont là pour nous avertir sur cela. Hein. Tenez-vous donc en éveil, dit Jésus, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors qu'il nous trouve prêts, chacun, lors de son retour. Amen.